Chapitre 15. Pour bien lire les cartes postales. Quelques jours après, Martin Dumas entrait chez moi un matin. Je n'ai à peine de me lever. « Mon cher Courville, me dit-il, je vais vous demander une tasse de chocolat et un petit pain au beurre. C'est-il dans les choses possibles ?»« C'est tout à fait possible, je me lève et on prépare mon petit déjeuner. » Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Nous partageâmes le chocolat, le lait, le pain grillé, le beurre. Et voilà, me dit Martin Dumas, un bon petit déjeuner. Nous en avons suffisamment. Comme il allumait ensuite sa cigarette, il me dit : Êtes-vous des nôtres aujourd'hui, mon cher Courville ? Volontiers. Nous allons à Melun. Parfait. Oui, nous allons chercher cette maison mystérieuse dans laquelle le commandant tient enfermé un Martin Dumas, qui n'est pas Martin Dumas, et son lieutenant, qui n'est pas son lieutenant. Oui, ça va. Martin Dumas me mit rapidement au courant de l'entreprise. Vous vous souvenez, mon cher, me dit-il, des paroles que les dissidents disaient au commandant quand ils se séparèrent de lui. Oui, vous me les avez fait entendre en me racontant l'affaire des grottes. Car le chef des dissidents se moqua de lui en rappelant sa capture. Or, le chef des dissidents, tout en ayant raison, avait tort. Comment cela ? Bien, c'est en effet un Martin Dumas, sans être Martin Dumas, qu'on a pris. Expliquez-vous. Très simple, mon cher ami, tout à fait simple. Vous comprenez que je devais prévoir cette capture en une circonstance pareille, dans laquelle je serais forcé, pour une raison majeure, de donner un état civil, de justifier deux personnalités, enfin, de fournir la preuve que si j'étais peintre... J'étais en effet peintre. Jusqu'à présent, ce n'est pas très clair. J'allume ma lanterne. En prenant ce personnage de peintre à la longue barbe, moi, Prosper ou Philippe, nous n'avons pas composé un personnage de fantaisie. Il y a un homme qui est en réalité ce que Martin Dumas devait être pour le bien de son métier. Oui, vous prenez la personnalité d'un homme. Sa personnalité, son extérieur, sa façon d'être, je deviens lui. Et cet homme que vous représentez ignore qu'il a par le monde un sosie ? Oh non, nullement. Alors, c'est un de vos hommes. Vous l'avez deviné. Martin Dumas ajouta : Deux de mes hommes vivent officiellement la vie de peintre. Ils ont gardé leur nom, leur véritable identité. Ils exposent, vendent leurs toiles comme des peintres véritables. Ils sont en réalité des peintres véritables. Puis seulement ils sont dans votre brigade. Voilà. Et personne n'en sait rien. Même vos hommes ne les connaissent pas. Oui, sauf bien entendu mes lieutenants. Quand j'ai besoin de prendre leur personnage, eux... Tout simplement, vont faire un petit voyage. Ils se rendent au point que je leur désigne. Et un de mes hommes et moi, pendant leur absence, nous occupons, si cela est nécessaire, leur logis et nous vivons absolument leur vie. Mais c'est dramatique, cela. Non, non, c'est seulement très pratique, indispensable. Mais supposez un instant, car il faut tout supposer. Supposez donc, mon bon Courville, qu'au cours de la bagarre des rochers, quand nous avons subi l'attaque des touristes anglais, qu'au lieu de gardes forestiers qui étaient des hommes à moi, nous ayons été secourus par de véritables gardes forestiers. Oui, et que ces braves gens aient dressé un procès-verbal officiel. Qu'une enquête fut ouverte et suivit son cours. Vous étiez forcé de donner votre nom, votre adresse, enfin... de répondre comme il est de règle. Parfaitement, Et je ne pouvais le faire sans dévoiler ma personnalité. J'aurais dû donner de véritables pièces d'identité. Ah oui, très juste. D'ailleurs, cela s'est produit. À propos du cambriolage de la villa. Les gendarmes marolais et son subordonné ont, eux, dressé un procès-verbal. Ils ont pris les noms, les adresses. Et il a fallu répondre sans sourciller, sans essayer de les tromper. J'ai donc été obligé de donner le nom des peintres dont nous avions pris le personnage pour séjourner à la villa de vos amis. Ah, parfaitement. C'est même pour répondre à la citation du juge d'instruction de Fontainebleau que mes deux hommes, les peintres véritables, se trouvaient ce jour-là à Fontainebleau. Je m'explique maintenant la multiplication des Martin Dumas en peintres et l'effarement des bandits en voyant surgir de tous côtés des Martin Dumas nouveaux. Mes hommes, ayant accompli la mission dont je les avais chargés, c'est-à-dire de jouer le rôle que j'aurais dû continuer en demeurant dans la peau du peintre, revenaient à Paris quand ils ont été pris par les bandits du commandant qui croyaient fermement cette fois tenir Martin Dumas. Très bien joué. Attendez. Maintenant, mes deux hommes sont prisonniers. Vous avez découvert leur prison ? Peut-être, peut-être. Bon. En tout cas, je sais qu'ils ont dû se défendre comme de bons diables, protester de toute leur énergie, crier, hurler qu'ils n'étaient pas Martin Dumas ni son lieutenant. Je ne pus m'empêcher de rire. Martin Dumas reprit. Ayant arrêté mes deux peintres, et s'étant aperçu par des moyens que j'ignore, et que j'aime supposer pas trop cruels, qu'ils avaient affaire à des peintres véritables et non à leurs ennemis, les bandits ont cherché à acquérir la preuve de cela. Et ils ont pris l'adresse des vrais peintres pour aller vérifier. Mes peintres qui ont donné, quel enfantillage, de quoi écrire à leurs amis, à leurs parents, pour annoncer qu'il restait quelques jours encore à Fontainebleau, ont écrit. Et les bandits comptaient surprendre dans cette correspondance quelque indice révélateur. Oui, je vois cela. Et ils ont mis les cartes postales à la poste. À Fontainebleau, non, à Melun. Ce qui est peu adroit, parce que des gens qui annoncent qu'ils restent dans une ville ne vont pas jeter leurs lettres dans une autre. Naturellement. Puis des hommes, des bandits, des espions sont venus sous divers prétextes faire des enquêtes, d'ailleurs adroites et discrètes, sur les hommes auxquels ces cartes postales étaient adressées. Et forcément, il y en avait une ou deux pour vous, indirectement. Oui, plusieurs adressés à d'autres me sont parvenus. Voyez, les voici. Martin Dumas me montra quelques cartes postales. Ce sont des vues de Fontainebleau, mais, comme il vous est facile de le constater, le timbre est oblitéré par un tampon portant la désignation de Melun. C'est peu adroit. Martin Dumas me dit encore, « Mon cher Courville, regardez bien ces cartes. » « Oui, vous n'y voyez rien ?»« La photographie. » Non, rien dans le texte, la rédaction. Rien qui vous donne une indication quelconque, qui vous révèle quelque chose. Je relus le texte de ces cartes postales. Lisez celle-ci, me dit encore le roi le détective. Lisez bien, attentivement. Je parcourus la missive à nouveau et l'énonçai à mi-voix. Elle contenait ceci. Captés par la beauté de la forêt, nous restons ici, voulant voir plusieurs points inconnus de nous, dont un, nous on vante le charme. Une seconde disait, Oh, nous devons rentrer ce soir, mais nous restons, malgré notre promesse formelle, uniquement retenus, malgré nous, par la beauté du paysage. La troisième. Mon cher, notre amour pour les vieilles maisons du grand siècle, les hauts murs, les grands arbres, nous attache ici où tout commence l'admiration pour l'époque du grand roi. Martin Dumas me demanda. Eh bien, que voyez-vous là? Ben, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais cependant, mes hommes, qui savaient que leurs cartes seraient lues et relues et épluchées, ont trouvé le moyen de me faire connaître leur sort. Ah, je suis curieux de voir. Mais reprenez la lecture de la première carte postale. Je la relus. Martin Dumas alors me désigna sur la carte ces mots. Capté, coin inconnu de nous. Il me dit, enlevez le banal du reste et retenez ces mots qui sont en saillie, si je puis ainsi dire, dans la phrase. Bien, passons à la seconde. Promesse formelle, uniquement retenue malgré nous. Et Martin Dumas ajouta, le reste est de la même banalité que la première, mais voyons la troisième. Je lus, vieille maison, grand mur, aux arbres, siècle du grand roi, commande l'admiration, force à rester ici. Martin Dumas se tourna vers moi. Comprenez-vous à présent? Ah, je commence. La première vue. Banalité absolue, c'est la carte postale. Mais les ennemis pouvaient y découvrir le secret que vous y trouvez. Peut-être, seulement les cartes adressées à des personnes différentes ne leur permettaient pas de croire qu'elles seraient tenues par moi. Ah, divisées, en effet, elles ne signifient que peu de choses. Martin Dumas les lut alors, ou plutôt la traduisit. Écoutez, mon cher Courville, écoutez. Nous sommes captés, retenus dans un coin inconnu de nous. Voici un jeu de mots, promesse formelle uniquement. Voyez, coupez ces deux mots, formelle uniquement en deux. Vous avez en premiant la fin de l'un, le commencement de l'autre. Formelle, un or. C'est-à-dire Melun. Cela nous fit rire. Peut-être pas très fort, très spirituel, me dit Martin Dumas. Mais ça me suffit. Oui, c'est une indication. Je sais donc que mes hommes sont captifs dans un coin que nous ignorons à Melun. C'est là un point important. Il reprit. La troisième carte me dit précisément davantage. Dans une vieille maison qui a de grands murs, de hauts arbres, datant de Louis XIV. Très exact. Et cette carte me dit que c'est le commandant qui force mes hommes à rester là. Je ne pus m'empêcher de crier bravo. C'était simple, c'était d'une adresse remarquable et sous la banalité remplie de ruses. En effet, il était impossible que le commandant, que ses hommes eussent la facilité de deviner ce que contenaient ces cartes postales. Ils avaient pu les transmettre en toute tranquillité. On pouvait les lire, les examiner, les étudier, sans en deviner le sens. Et ce sens, me dit Martin Dumas, le véritable sens, pour le comprendre. Il faut absolument mettre les trois cartes en ordre. En ordre, oui, les lire l'une après l'autre, mais chacune à sa place, au tour qui lui est assigné. Oui, mais pour savoir quelle place elle occupe, demandai-je. Très facilement, regardez les signatures. Elles sont terminées par un paragraphe simple que finit un point. Puis la seconde a 2 points. Hein, la troisième, 3 points. L'ordre est parfaitement indiqué. Encore faut-il le remarquer. Oh, le commandant aurait pu le faire, peu importe. Mais comment ? En effet, il est probable que toutes les cartes envoyées par mes hommes portaient ces points. Le commandant a pu croire que ces points faisaient partie de la signature habituelle de ceux qui écrivaient ces cartes postales. C'est possible. Et comme elles étaient mêlées et non dans l'ordre, que ces 3 cartes postales se trouvaient perdues parmi les autres, même en ayant recours aux lumières d'un somnambule, il ne pouvait tirer aucune conclusion de cette remarque. Oh, c'est admirable, en effet. Alors, Martin Dumas reprit. Vous pensez bien, mon cher Courville, qu'ayant appris que nos deux hommes, dont Prosper et moi, nous étions les sosies, venaient à Fontainebleau pour déposer dans l'enquête des cambrioleurs, j'ai eu avec eux un entretien, ou du moins un de mes agents communiqua avec eux, leur donna de nouvelles instructions au cours de la journée. J'en suis persuadé. Par conséquent, en n'apprenant pas leur retour à Paris, j'ai le soir même soupçonné un coup. Oui, je le savais qu'ils devaient prendre le train à Fontainebleau après avoir passé devant le commandant s'être bien fait voir. Je savais à quelle heure ils devaient être rentrés à Paris. Donc, ne les voyant pas débarquer du train qu'ils avaient pris à Fontainebleau, j'ai conclu qu'on les avait retenus en route. Et vos agents vous firent connaître cela. Or, le train s'arrête seulement à Melun. Et vous en avez déduit que vos hommes avaient dû être retenus à Melun. Je l'espérais, je le souhaitais. Et pourquoi ? Mais parce que je savais que le commandant et des hommes à lui s'étaient embarqués dans le même train. Et vous avez craint un attentat en route ? Oui, un assassinat, un meurtre, et le rejet sur la voie du corps de mes malheureux hommes. Et qu'avez-vous fait alors ? Et qu'avez-vous fait ? Oh, tout aussitôt, j'ai envoyé des hommes s'enquérir à Melun. J'ai appris que le commandant était descendu à Melun. J'ai appris également que 2 hommes ivres portant de la barbe et vêtus comme je le savais avaient été débarqués à la même gare et emmenés par leurs compagnons de voyage. C'était tout ce qu'il m'importait de savoir pour le moment. Martin Dumas se mit à sourire. « Mon cher ami, me dit-il, quand je vous ai dit que le commandant n'avait pas une imagination fertile, je me trompais point. Ce qui veut dire ben, que le commandant recommençait avec mes hommes le coup qui a été tenté sur vous. Là, le coup de la cigarette, absolument. Vous vous êtes méfié, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Et vos hommes ont cédé. Ou l'ont pu résister. Toujours est-il que, soit avec une cigarette composée avec la plante indienne stupéfiante, soit d'un tout autre moyen, on leur a fait absorber un narcotique quelconque qui les a mis dans l'impossibilité de se défendre, de faire de la résistance. On les a enivrés pour les entraîner. En effet, je savais donc que mes hommes, comme ivres, hors d'état de fuite, de résistance, était entre les mains des hommes du commandant. Et les cartes postales, le lendemain, vous en donnaient confirmation. Et les hommes du commandant prenaient la peine de venir eux-mêmes m'en renouveler l'assurance. Et en quoi faisant ? Mais tout bonnement, en venant aux adresses mises sur ces cartes postales par mes hommes, prendre des renseignements. Ah, je comprends. Et en venant surtout au domicile des 2 peintres faire une enquête sérieuse. Ils se donnèrent comme clients, puis comme parents de province, comme marchands de couleurs, comme modèles, et même comme agents de la sûreté. Non, si, ils ont eu cet aplomb, Les bandits, maintenant, pour tenter leur coup, se déguisent en agents. Oh, c'est original. Alors, ce qu'il y a de plus curieux, c'est que pendant ces quelques jours derniers, les concierges de la maison qui habitent nos deux peintres, dû pour des raisons de famille, se rendent dans son pays. Quelle coïncidence! Et il laissa sa loge aux soins d'un ami en qui il avait toute confiance. Et c'est cet ami du concierge par intérim, qui dut répondre aux questions de tous ces gens. Et c'est à cet ami qu'on graissa la patte pour avoir des renseignements précis sur les deux locataires. Ils en eurent pour leur argent. Non, de bons, de vrais renseignements, car le concierge intérimaire n'était autre que mon fidèle Prosper. C'était original, en effet, je reconnaissais là la main du terrible pince-sans-rire qu'était Martin Numa. Il continua. Comme dans un pareil cas, il faut toujours s'attendre au pire, je tiens pour plus que probable que le commandant a percé un jour le pipe-plaie. Peut-être pas. Bon, donc, à cette heure, il sait que les peintres prisonniers, s'ils ne sont pas Martin Dumas lui-même et son second, appartiennent cependant à sa bande. Alors je tremble pour mes deux malheureux compagnons. Et il y a de quoi en vérité. Le commandant a tellement de défaites à laver et tant de revanches à prendre. Aussi, dès ce matin, mon cher Courville, nous allons marcher à la délivrance de mes hommes. Bravo. Et je viens vous demander si vous voulez assister à l'opération qui est en dehors de celle que vous avez suivie et peut-être extrêmement attrayante. Mais ça va, comment donc? Merci, je suis des vôtres, et avec quel plaisir! Peu après, nous roulions dans une automobile sur la route de Melun, à la recherche de la maison inconnue, et tenter de délivrer, d'arracher au féroce commandant les deux peintres prisonniers. Fin de Les ombres qui tuent.